Noël à Paris. Monsieur Chamuseau venait de fermer la grande porte d'entrée. Madame Chamuseau était montée jusqu'au 5e pour éteindre les becs de gaz de l'escalier. Il était donc 10 heures du soir, pas une minute de plus ni de moins, car la maison dont monsieur et madame Chamuseau étaient depuis 30 ans les concierges redoutés était en fait de ponctualité le modèle des maisons du quartier. Une fois la porte de la loge refermée sur eux, monsieur et madame Chamuseau s'assirent en face l'un de l'autre. C'était le 24 décembre, et la rue, l'une des plus paisibles du faubourg Saint-Honoré, était fort animée ce soir-là. Si sa dignité lui eut permis de regarder à travers les carreaux de sa fenêtre, monsieur Chamuseau eut aperçu une foule de gens qui se dirigeaient vers le centre de Paris pour voir les boutiques illuminées. Mais qu'il y ait des passants ou non, que les boulevards soient illuminés ou ne le soient pas, que le monde entier se réjouisse ou s'afflige, qu'est-ce que cela fait aux cariatides qui soutiennent le balcon de la façade? Rien, assurément. Elles portent sur leurs épaules le même poids d'un bout de l'année à l'autre. Elles ont toujours la même expression de contentement stupide. Il n'y a rien de surprenant à cela, puisqu'elles sont de pierre. Mais je ne connais personne au monde qui ressemble autant à ces cariatides que les respectables concierges susnommés. Eux aussi semblent porter la maison tout entière sur leurs épaules. Eux aussi sont là, immuables comme les statues de la façade, du 1er janvier au 31 décembre, à la différence de quelques rides de plus et de quelques dents de moins. Noël, les joies de l'enfance. Il y a beau temps qu'ils ne pensent plus à ces fadaises-là, s'ils y ont jamais pensé. Cependant, on remarque chaque année, vers cette époque, un changement chez eux, une sorte de mue passagère et incomplète. Leurs traits, ô miracle, s'adoucissent, ébauchent même un sourire, et quel sourire, au passage des locataires. J'entends de ceux qui logent du 1er au 4e étage inclusivement. Mais l'enfant de Bethléem n'est pour rien dans ces surprenantes aménités. La perspective des étrennes, voilà ce qui a transformé pour 8 jours le masque de nos 2 cariatides. Ce soir-là donc, leur besogne terminée, ils sont assis en face l'un de l'autre. Un gros chat blanc pelotonné devant le fourneau ronfle doucement, et les 2 époux, dans l'atmosphère chaude et lourde de leur loge, enfoncés chacun dans un vieux fauteuil, débris fort confortable de quelques déménagements, ont l'air de se pelotonner aussi dans leur bien-être, tandis qu'un vent de neige souffle au dehors. Aucun d'eux ne parle. Ils se sont tout dit depuis longtemps déjà. Mais soudain, la vieille femme se lève, comme mue par une pensée irrésistible. Elle regarde son mari dans les yeux. Celui-ci fait de la tête un signe approbateur. La vieille femme ferme soigneusement les volets extérieurs, tire les rideaux de la fenêtre et revient fermer à clé la porte de la loge. Puis, lentement, avec une sorte d'hésitation, elle se dirige vers une grande armoire de chêne, le meuble principal. Elle a tiré de sa poche la clé de cette armoire. Elle l'ouvre. Pendant ce temps, le mari a étendu sur la table un vieux châle qui couvrait le lit et il attend, les 2 mains appuyées sur ce tapis, les yeux rivés sur sa femme et comme brillant de fièvre. Aucun d'eux ne parle. Ils sont trop émus pour cela. La femme pose sur la table une boîte fermée par une serrure. Le mari, à son tour, tire une clé de son gousset. C'est une précaution qu'ils ont prise à l'égard l'un de l'autre. À la femme la clé de l'armoire, au mari celle de la cassette, touchante confiance entre de vieux époux. La boîte est ouverte, et à la lueur du bec de gaz qui éclaire la loge, l'or brille, mais non d'un éclat plus vif que ces 2 paires d'yeux. Leur visage jaune d'ordinaire est devenu cramoisi. Ils tremblent, ils palpitent, de délicieuses émotions se sont emparées de leur cœur. Mages, bergers, bonnes âmes de tous les temps, penchez-vous sur la crèche de Bethléem pour adorer l'enfant divin et pour lui offrir ce que vous avez de plus précieux. Voici des gens qui n'ont pas besoin d'aller si loin. Leur enfant, leur trésor, leur sauveur, leur Dieu, le voilà. Et puissiez-vous adorer le vôtre comme ils savent adorer le leur. ils osent enfin plonger leurs doigts dans la cassette, et le mari dit à voix basse « Comptons !»« Comptons !» répond la femme. Depuis des années, presque chaque soir, ils comptent ainsi. Chacun d'eux sait la somme d'avance, et ils n'y ajoutent rien, ils n'en retirent rien pour le placer en rente sur l'État, sans s'être consulté. Mais quel plaisir que celui de palper cet or, de sentir au bout de ses doigts le froid du métal, plus doux qu'un baiser. Quand les marronniers sont en fleurs, quand les arbres des Champs-Élysées sont pleins de nids, quand la Seine le soir roule ses ondes mystérieuses, reflétant à la fois les clartés du ciel et celles de la terre, quand le divin printemps étend sur la ville son sceptre magique et fait circuler ses parfums sur les trottoirs encombrés, poétisant l'asphalte elle-même, les deux avares sont là devant cette table, adorant leur Dieu. Ils ont ici leurs fleurs, leurs oiseaux, leurs parfums. C'est toujours le printemps pour eux. Leur soleil est emprisonné dans cette boîte carrée. 3620, dit enfin M. Chamuseau devant les piles alignées. Il faudra placer cela. Nous perdons des intérêts. La femme répond par un hochement de tête qui semble dire « Quel dommage de s'en séparer !» Comme pour prévenir cette objection, le concierge ajoute « Il y aura bientôt les étrennes. » « Au moins 300 francs !» reprend Madame Chamuseau, un peu consolée à cette perspective. Il n'y a plus d'or à compter, mais il reste dans un tiroir 2 ou 3 écus. Puis, afin de ne rien oublier dans cet inventaire, M. Chamuseau se fouille. Sa femme en fait autant. Tous deux vivent de leur porte-monnaie sur la table. Le porte-monnaie de Navarre, quel poème! Il a coûté 13 sous dans un bazar quelconque, et voilà 3 ans qu'il sert. Mais, si usé qu'il soit à l'extérieur, pas un point n'y manque, pas un trou par où la moindre pièce puisse s'échapper. Les gros sous l'ont teint au-dedans de leur rouille verdâtre. Il y a de tout, des médailles de la Vierge trouvées en balayant le trottoir, des pièces d'un centime, de vieux boutons. Dans le compartiment du milieu, 2 ou 3 pièces blanches, la réserve dont on ne se sépare qu'à regret, le plus tard possible. Parmi ces pièces blanches, M. Chamuseau en retient une entre ses doigts. « Elle est fausse !» dit-il en colère. « Qui me l'aura passée ? Le boucher, le boulanger peut-être, ils sont tous si voleurs !» Mais Mme Chamuseau est en veine de générosité. « Allons, ne te fais pas de mauvais sang, » dit-elle. « Si tu ne peux pas la repasser avant, tu la donneras à Louis, notre petit-neveu, quand il viendra nous souhaiter la bonne année. » Louis, c'est le fils d'un neveu de M. Chamuseau. M. Chamuseau a perdu son frère il y a 4 ans. Son neveu est mort l'année suivante, laissant 3 enfants et une veuve qui habite le faubourg Saint-Antoine. Tous les ans, Louis, l'aîné des enfants, vient voir son grand-oncle au jour de l'an. Il y a 2 ans, celui-ci lui a donné 5 francs pour ses étrennes. Mais Mme Chamuseau a trouvé cette générosité exorbitante et a beaucoup grondé. L'année dernière, il s'est borné à 2 francs. Cette année, le grand-oncle met à part une pièce fausse de 20 sous pour son petit-neveu. Et tandis qu'ils décident ensemble cet acte de libéralité, le mari et la femme échangent un regard plein de sous-entendus. « Bonsoir, braves gens !» dit une voix. Les deux concierges se retournent effarés. Madame veut crier, mais l'émotion l'étrangle. Monsieur Chamuseau est devenu blême. Tous les deux, campés devant la table, lui faisant un rempart de leur corps, regardent avec stupeur cet intrus qui est entré par miracle dans une chambre fermée à clé. L'intrus est un grand vieillard, vêtu d'une vaste houppelande de couleur brune qui descend plus bas que les genoux. Ses cheveux, d'une blancheur de neige, tombent en longues boucles sur ses épaules légèrement voûtées. Il porte un chapeau à large bord sous les ailes duquel brillent des yeux profonds, ombragés de sourcils aussi blancs que les cheveux. La barbe est longue, elle a des reflets d'argent. Il tient à la main un bâton de voyageur. « Bonsoir, » répète-t-il d'une voix railleuse. « Je vois, monsieur Chamuseau, que vous pensez à vos héritiers. » « Je vous en félicite. Ce cher petit Louis va-t-il être content de ses étrennes ?»« Qui êtes-vous » s'écrie le concierge hors de lui. « Votre ami, mon cher monsieur Chamuseau, votre ami et celui de votre famille. Je vous ai surpris, mais excusez-moi. Allez-vous-en, bégait le malheureux portier, ou j'éveille toute la maison. Vous crierez aux voleurs, n'est-ce pas ? et quand on viendra pour l'arrêter, le voleur, savez-vous qui ce sera ? Ce sera vous, mon cher ami, ce sera vous, et l'on trouvera dans cette boîte l'héritage de votre frère Philippe, que vous avez dérobé à son fils, votre propre neveu, le père de ce petit Louis, à qui vous allez donner une pièce fausse. « Pas si fort, pas si fort, monsieur !» supplie la vieille femme, plus morte que vive. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » ?»« Qui je suis, cela vous importe peu, hélas. Je suis celui qui passe chaque année à travers le monde, semant la joie dans tous les cœurs purs, l'espérance dans tous les cœurs brisés, le pardon dans tous les cœurs repentants. Si vous l'aviez voulu, j'aurais laissé ici l'une de ces trois choses, ou toutes les trois ensemble. Je suis... « Noël !»« Noël ?» répétèrent les deux vieillards surpris. « Ce que je viens faire chez vous, le voici. À la mort de votre frère Philippe, il y a 4 ans, vous avez été un moment seul dans la chambre. Vous en avez profité pour ouvrir un meuble dans lequel vous saviez que votre frère, presque aussi avare que vous, avait mis son argent. Vous avez pris les 3 000 francs qui étaient cachés là. L'héritier légitime, son fils, n'a trouvé que quelques hardes. Cet argent lui eût été bien utile, car il était pauvre. L'année suivante, c'est lui-même qui est mort, tué en grande partie par la misère. Sa femme s'est trouvée veuve, sans ressources et avec 3 enfants. Vous auriez dû restituer, vous ne l'avez pas fait. Je viens chercher cet héritage pour l'apporter à votre nièce qui en a besoin. Combien y a-t-il, là ?
3 000 francs, murmura Madame Chuiseau. Tout notre avoir.
« Vous mentez. Il y a davantage, mais ce sera pour les intérêts. Vous avez autre chose encore, car je vous laisse votre pièce fausse, cher monsieur Chamuseau, et vos rentes sur l'État. Allons, donnez-moi cette cassette. »«
Jamais !»
crièrent à la fois les deux concierges. L'avarice était plus forte que la peur, plus forte que la honte, plus forte que tout. « Jamais !» répéta le visiteur. « Nous allons voir. » Il leva son bâton, et l'homme et la femme reculèrent. Mais il se contenta d'en toucher la cassette en la regardant fixement d'un regard surnaturel. Aussitôt, les pièces d'or sautèrent d'elles-mêmes sur la table et sur le plancher. Monsieur et Madame Chamuseau les firent rouler dans toutes les directions. Éperdus, n'écoutant que leur instinct, ils se baissèrent pour les ramasser. Ô terreur ! Sous les regards de l'homme aux cheveux blancs, les pièces d'or s'étaient transformées à vue d'œil. Chacune d'elles brillait d'un éclat insupportable. Elles s'élargirent, des pattes longues, multiples, affreuses, leur poussaient comme aux araignées et aux crabes. Alors, elles s'acharnèrent après les deux avares. Elles s'attachèrent à leurs jambes, à leurs mains, jusqu'à leurs cous, avec une horrible ténacité. Monsieur et Madame Chamuseau, haletant, se débattaient en vain. L'or vivait, grouillait, mordait, brûlait, et l'on eût dit qu'une même pensée animait tous ces êtres ignobles. C'est vers le cœur de leurs victimes qu'ils se concentraient de plus en plus. « Grâce, grâce !» crièrent enfin les malheureux, épouvantés. Noël les regarda, vit leur souffrance et eut pitié d'eux. Il frappa le plancher avec son bâton, toutes les pièces d'or reprirent leur forme naturelle et leur place dans la cassette. « Donnez-la-moi, dit-il, et qu'il n'y manque rien. » Puis s'emparant du trésor, il ouvrit lui-même la porte et disparut dans le corridor sombre en disant « Le cordon, s'il vous plaît !» Madame Chamuseau tira le cordon, et Noël, fermant la porte derrière lui, se perdit parmi les passants qui, à 7 heures, se dirigeaient vers les églises pour entendre la messe de minuit. L'homme à la houppelande, cachant sa cassette sous les plis de ce vêtement, descendit d'un pas rapide vers la Madeleine. Il était 11 heures. La foule encombrait les marches de l'église et le péristyle. À travers les portes ouvertes, on apercevait le maître-autel resplendissant, et dans l'âpre vent de la nuit, des bouffées de musique et d'encens arrivèrent jusqu'au vieillard. « Pauvres gens, disait-il en voyant cette foule, c'est là qu'ils vont chercher l'enfant promis au monde, qu'il y a loin de tout ceci à la crèche. Ah, que ne cherche-t-il là où il se trouve, celui qu'ils prétendent adorer ?» En parlant ainsi, Noël s'engagea sur la ligne des grands boulevards. « Voici Noël !» Sur son passage, les cochers de fiacres, engourdis par le froid, se sentent subitement réchauffés. Les marchands dans leurs petites boutiques reprennent courage, annonçant d'une voix plus forte « L'article de Paris, le nouveau jouet de l'année !»« Voici Noël !»
Le vent qui s'engouffre dans les plis de son manteau souffle moins glacial, moins lugubre après l'avoir touché. Les becs de gaz semblent briller plus joyeusement à son approche. Les pavés paraissent moins noirs. Le vagabond qui cherche chaque soir un hangar, une porte cochère, une charrette pour y dormir, oublie le sommeil et la rue elle-même devient clémente et hospitalière. « Voici Noël !» Il marche et le passant qui le frôle éprouve comme une commotion joyeuse. Mais ce mystérieux rayonnement s'étend plus loin. Tandis que ce grand vieillard traverse Paris, la cité tout entière subit son influence. C'est l'heure où les lumières brillent dans toutes les demeures, pauvres ou riches, d'un éclat inusité, depuis le lustre du grand hôtel jusqu'à la veilleuse suspendue au plafond blafard des salles d'hôpital. « Voici Noël !» C'est l'heure où, tandis que le vent gémit dans les cheminées, les petits enfants voient en rêve une avalanche de jouets dégringolés dans l'âtre et les sourires errent autour de toutes ces lèvres roses, dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque maison, partout où se trouve une mère. Voici Noël ! Rien ne l'arrête jamais. Tous les ans, à pareille heure, on le voit apparaître. Il est entré dans Paris malgré le siège et que de cœur n'a-t-il pas réchauffé cette année-là ? Il est toujours vieux, mais toujours jeune. C'est le juif errant du bonheur. Les nations changeront de drapeau, les philosophes changeront de système, les villes changeront de place, mais Noël reviendra chaque année, tant qu'il y aura un soleil pour mesurer le cours des ans. Cependant, il marche toujours. Il a déjà dépassé la porte Saint-Denis, la place de la République, la Bastille. Il se dirige à grands pas vers le faubourg Saint-Antoine, qui lui aussi est illuminé à sa façon et retentit de mille bruits joyeux. Au cinquième étage d'une maison de la rue des Boulets, dans une mansarde dont le plafond à angle aigu n'est autre chose que le toit de la maison, plein de crevasses, à travers lesquelles le vent de décembre passe à son gré, une femme de 20 ans à peine, presque une enfant, agonise sur un grabat. Un fourneau de fonte, dont le tuyau passe à travers le toit et dans lequel se consument 2 ou 3 morceaux de charbon, une chaise boiteuse, une table sur laquelle on voit une tasse et un chandelier où brûle un reste de bougie. Dans un coin, un sac de paille sur lequel dort un petit enfant couvert de quelques haillons. Voilà, avec le lit sordide sur lequel la jeune femme est couchée, tout l'ameublement de la chambre. La malade est couverte d'un drap grossier et d'une méchante courte pointe de laine grise, mais son agitation est extrême. La fièvre la consume, elle est en proie au délire et parle à haute voix. « Mourir et laisser mon enfant, » dit-elle. « Mon Dieu, est-ce possible ? Mais qui l'élèvera ? Qui prendra soin de lui ? Laissez-moi vivre, Seigneur, et je vous promets d'expier toutes mes fautes. Je l'aurais tant aimé, cet enfant. » J'aurais été, je le sens, aussi bonne pour lui que le fut ma mère pour moi. Ma mère, faudra-t-il que je parte sans l'avoir revue, sans avoir reçu son pardon? J'ai brisé son cœur et je ne sais même pas si elle vit encore. Ah, si je pouvais la voir, me jeter à ses pieds, si seulement, avant de m'en aller, quelqu'un venait me dire « Ta mère te pardonne !»« Ta mère te pardonne !» dit une voix semblable à un écho. « Qui est là? Est-ce vous, voisine ?» s'écria la malade en se soulevant sur son séant. Mais elle ne vit personne, car Noël était entré sans bruit et la clarté mourante de la bougie n'arrivait pas jusqu'à la porte. « J'aurais rêvé, se dit-elle, ou peut-être le bon Dieu m'a-t-il exaucé en m'envoyant l'un de ses anges ?»« N'en doute pas, ma fille, » reprit la voix. Elle était si douce, cette voix, que la malade n'en ressentit aucun effroi. Une main se posa sur son front brûlant, et aussitôt un grand calme l'envahit, un sentiment profond de paix et de bien-être. « Regarde !» dit Noël à voix basse en se penchant sur elle. À cet ordre, la malade ouvre les yeux, et voici que soudain la chambre est devenue gaie. La lumière s'est ranimée, le feu ronfle dans le poêle, ce ne sont plus les mêmes meubles. Un rouet dans un coin, tout près, garni de laine, semble dormir à la place du petit enfant. Le petit enfant, c'est elle. C'est la pauvre fille qui se revoit telle qu'elle était il y a 15 ans. Et cette femme qui se penche sur elle, souriante, et l'embrasse sur le front, n'est-ce pas sa mère ? « Endors-toi, mon enfant, » dit-elle. « Je te pardonne, je te pardonne. » La malade lui tend les bras, mais elle ne peut la saisir. « Ma mère » s'écrie-t-elle, et une expression pénible se peint sur son visage. Elle ne dure qu'un instant. La vision a disparu. « Regarde encore !» dit le vieillard à voix plus haute. La jeune femme obéit. Cette fois-ci, elle se voit dans une grande salle brillamment éclairée. Des chaises en quantité, une estrade, un orgue, un monsieur qui parle, et tout au fond, on voit un grand écriteau rouge avec des lettres d'or. « Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi, » dit Jésus-Christ. « Quand vos péchés seraient rouges comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le monsieur qui parle, debout sur l'estrade, a la main tournée vers cet écriteau. Il regarde la jeune femme. Il semble ne parler que pour elle. Il lui dit « Croyez-vous cela ?»« Oui, » répond-elle faiblement. Mais tout à coup, les lumières se sont éteintes, l'orateur a disparu, et l'écriteau aussi. « Regarde !» crie Noël d'une voix puissante, et il a touché de son bâton l'une des crevasses du toit. Aussitôt, l'ouverture s'élargit, devient immense, le plafond tout entier disparaît, le ciel bleu et profond se dévoile, chaque étoile apparaît, aux yeux de la mourante, plus brillante que celle de Bethléem ne le fut jadis au regard des mages. Il ne fait pas froid, l'air est doux, imprégné de parfums. Le vent du ciel passe à travers cette mansarde, illuminée des feux d'en haut. La jeune femme se soulève, elle tend les mains vers ces clartés admirables. « Me voici !» s'écrie-t-elle, comme répondant à un appel irrésistible, et elle retombe, inanimée sur son lit. La bougie mourait dans sa bobèche, le toit noir s'était refermé. À peine une étoile brillait-elle ici et là, à travers les carreaux de la lucarne et les crevasses du plafond. Le vieillard s'approcha, ferma les yeux de la morte, rangea le drap et la couverture, puis il se pencha sur le sac de paille où gisait l'enfant endormi. Il le prit, l'enveloppa dans sa houppelande et s'avança vers la porte. « Repose en paix, pauvre fille, » dit-il. « De tous ceux que je visite aujourd'hui, c'est toi, oui ?» C'est toi qui es la plus heureuse. » Après avoir fermé la porte du Galta, Noël descendit un étage. Arrivé au quatrième, il s'arrêta devant l'une des cinq ou six portes qui donnaient sur le palier. À travers la serrure, on voyait briller une lumière dans la chambre. Noël entra doucement, à sa manière, sans être aperçu de personne. Une femme de 35 ans environ était assise devant la table, cousant à la clarté d'une petite lampe à abat-jour. La chambre était pauvre, mais propre. Dans un lit de fer dormaient deux petites filles. Un paravent était dressé dans un coin, derrière lequel était couché l'aîné, Louis, grand garçon de 10 ans, le petit-neveu de M. Chamuseau. Car nous sommes ici chez la veuve, et c'est elle qui travailla encore à cette heure tardive. À quoi travaillait-elle? Des robes à recoudre, des pantalons à rapiécer sont entassés devant elle. C'est pour ses enfants que travaille, à minuit passé, Madame Chamuseau, la nièce. C'est demain, Noël. Demain, ou plutôt aujourd'hui. Et ces trois petits doivent assister à la fête. On doit leur montrer un arbre illuminé, une lanterne magique, que sais-je moi, et leur donner des prix, car ce sont eux les meilleurs élèves de l'école du dimanche du faubourg Saint-Antoine. Vous comprenez bien qu'une mère soigneuse ne peut pas laisser ses enfants aller comme cela, avec des trous aux coudes et aux genoux. Et elle travaille, tandis que l'on entend dans la chambre le souffle égal de ses trois petites poitrines, sur lesquelles ne pèse encore, Dieu merci, aucun poids douloureux. Dans la cheminée, trois paires de souliers sont rangées par ordre de taille. Les talons sont bien un peu éculés, mais ce n'est pas aux talons que les enfants regarderont ce matin au réveil. En attendant, approchons-nous, si vous le voulez bien, et regardons nous-mêmes. Dans le plus petit soulier, une poupée de 30 centimes, élégamment habillée d'un bout de mousseline et d'un ruban rouge. C'est le cadeau de Marthe. Dans le soulier moyen, un nécessaire composé d'une paire de ciseaux, d'un dé à coudre et d'un étui à aiguille. Le tout acheté 65 centimes au bazar de l'hôtel de ville. Ce sera la joie de Pauline pendant 8 grands jours. Et dans le grand soulier, une boîte de compas. C'est un cadeau sérieux. Il a coûté 1,25 franc, ce qui représente presque une journée de travail de la mère. Car pour son louis, la veuve a un faible. « C'est un vrai petit père », dit-elle souvent en le regardant avec des yeux attendris. On entend monter de la rue des chants joyeux. Ce sont des jeunes gens qui chantent, plus mélodieusement qu'on oserait l'espérer à pareille heure. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Ah, se dit la veuve, tout le monde est content aujourd'hui. Quand je pense qu'il y a 3 ans, mon pauvre homme était là, et que maintenant il dort là-bas à Saint-Ouen, je n'ai pas le cœur de me réjouir. Allons, du courage, le bon Dieu nous a aidés tout de même. La santé n'a pas manqué, le travail non plus, c'est le principal. Il y a tant de plus misérables que nous. Bon, dit-elle tout à coup, à haute voix, en se frappant le front. Et la petite femme de là-haut que j'oubliais? Il y a au moins 2 heures que je n'y suis pas montée. Il faut aller voir si elle n'a besoin de rien, ni son enfant non plus. Il doit pleurer à 7 heures, le pauvre petit. Vite, montons. C'est inutile, dit Noël, qui, tout près de la porte, semblait l'avoir ouverte au même instant. Je viens là-haut. Tout est fini. Morte, s'écria Madame Chamuseau, la nièce, sans remarquer tout d'abord l'apparence extraordinaire du visiteur, qu'elle prit pour le médecin qu'on avait fait chercher la veille. « Pauvre femme, laissez-moi vite aller chercher l'enfant. »« Le voici, » dit Noël en soulevant les plis de son manteau. « Madame Chamuseau, je vous apporte vos étrennes. » Et en parlant ainsi, il mit le petit être dans ses bras. « Mes étrennes, ce petit-là, mais vous ne savez donc pas que j'en ai 3 et que je suis veuve. Certainement, monsieur, que je le garderai jusqu'à ce que la famille le réclame. C'est bien le moins que je puisse faire. »« Et s'il n'a pas de famille ?» dit le vieillard. « Ah !» dit la mère embarrassée. « C'est vrai tout de même. On ne lui a jamais connu personne, à la petite femme de là-haut. »« Eh bien, tant pis, » ajouta-t-elle, après un instant d'hésitation. « Je le garderai tout à fait, s'il le faut. Le bon Dieu m'aidera. Comme vous dites, ce seront mes étrennes à moi. Une poupée du jour de l'an, quoi. Pauvre petit, pauvre petit. » Et la brave femme, les yeux humides, couvrait l'enfant de baisers. Le vieillard la regardait, attendri. Madame Chamuseau porta l'enfant sur son grand lit au fond de la chambre. Son visiteur la suivit. À ce moment, était-ce un éblouissement causé par la fatigue ou l'émotion? Elle vit quelque chose d'extraordinaire. Sous le regard du vieillard, ce même regard qui, dans l'autre maison, avait tout à l'heure animé les pièces d'or, le lit diminua, diminua jusqu'à devenir un humble berceau, quelque chose comme une crèche. L'enfant se transfigura. Il souriait, il tendait vers la brave femme ses petites mains, une lueur divine rayonnait autour de sa tête. « Noël, Noël, voici le Rédempteur !» chantaient les jeunes gens dans la rue. « Ah, mon Dieu !» s'écria Madame Chamuseau. « Est-ce possible? Serait-ce lui que j'aurais reçu chez moi ?»« C'est lui-même, » dit le vieillard en relevant la tête. La femme tourna la sienne, mais son étrange visiteur avait disparu. Quand ses yeux revinrent sur l'enfant, tout était redevenu naturel. Elle ne vit plus que son grand lit et le poupon dormant à poings fermés. Cependant, quelque chose attira son attention. Sur la table, une cassette avait été déposée. Elle la prit, la souleva, elle entendit un son métallique. La clé était à la serrure, elle l'ouvrit. C'était le trésor des vieux Chamuseau. Un billet ainsi conçu était posé sur les pièces d'or. « C'est ici l'héritage du grand-père. Priez pour ceux qui vous l'avaient dérobé et pardonnez-leur. » Et au-dessous, ce mot qui était à la fois une date et une signature, « Noël ».